Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Soit-il.
soit-il.
Ô Dieu qui chaque année purifiez votre Église par l'observance du carême. Mes très chers frères, le carême a enfin commencé. Tous les chrétiens sont désormais unis dans les jeûnes, dans les abstinences, dans les prières, dans les aumônes et les bonnes œuvres que prescrit l'Église pour expier les péchés de l'année et pour expier aussi les péchés de toute la vie. Bienheureux celui qui peut saisir l'occasion qui est donnée à l'Église en tant que corps pour travailler à son salut. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous verrons comment le carême est méritoire et la raison pour laquelle le carême est méritoire pour les chrétiens. Et nous verrons aussi pourquoi le diable y est toujours très actif pendant ce temps de carême. Le deuxième point consistera dans l'examen des trois tentations de notre Seigneur. Nous verrons comment notre Seigneur Jésus-Christ a réparé la faute d'Adam et nous verrons en quoi consiste sa triple fidélité et nous verrons aussi que c'est en lui que nous triomphons du diable. Et nous terminerons en voyant que le carême est une préparation pour la préparation pour une véritable adoration de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
En ce temps-là, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes très chers frères, le carême est l'imitation du jeûne de 40 jours de notre Seigneur au désert. Le carême est aussi ancien que l'Église et il semble que, d'après les plus anciens monuments de l'Église, que les chrétiens ont toujours, dès l'âge apostolique, observé le jeûne quadragésimal, le jeûne du carême. Ce que nous faisons est donc quelque chose que nos pères dans la foi faisaient déjà, sauf qu'ils le faisaient mieux, ils le faisaient d'une façon plus rigoureuse, nous le faisons avec quelques accommodements, mais disons d'une façon générale, le fait de jeûner 40 jours avant la fête de Pâques est une institution apostolique. Nous sommes donc en plein dans la tradition de l'Église la plus immémoriale. Lorsque nous jeûnons de cette manière-là, lorsque en tant que corps, l'Église jeûne, eh bien, elle imite son divin époux qui a fait pénitence pour nous durant 40 jours et 40 nuits dans le désert, pendant lesquels il n'a ni mangé, ni bu, rien du tout. C'est donc, nous disent les théologiens, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ que notre pénitence est méritoire. Comme vous le savez, si nous avons des mérites qui nous sont imputés et qui nous sont comptés comme des mérites par le Seigneur Dieu, il se trouve que c'est dans le Christ. Dans la mesure où nous sommes en lui par le baptême et par l'état de grâce, nous vivons de lui de telle sorte que tout ce qui est à lui devenant à nous, tout ce qui est à nous est véritablement à lui. Et c'est pour cela que nous méritons véritablement des mérites, nous obtenons des mérites par nos bonnes actions, et tous ces mérites, nous les obtenons par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement, comme dit l'apôtre. C'est par lui donc que notre pénitence est méritoire. C'est dans notre divin chef, et par lui, nous dit un auteur, que le jeûne et toute mortification de la chair a été portée, sanctifiée, enseignée et rendue facile pour le chrétien. Il y a dans beaucoup de religions des pratiques mortificatoires, il y a même des choses parfois assez impressionnantes qu'on peut trouver dans toutes sortes de religions, mais ce sont des fausses religions. Nous ne disons pas que le jeûne pour ces gens-là est plus facile ou moins facile que pour les chrétiens, nous disons simplement qu'il n'y a que dans l'Église où le jeûne est méritoire pour la vie éternelle. Nous devons donc être reconnaissants, non pas tant de jeûner, mais de jeûner en tant que chrétien. C'est une des premières causes de notre reconnaissance envers Dieu. Nous devons être reconnaissants de ne pas perdre nos forces, perdre notre bonne volonté, si l'on peut dire, dans des fausses religions, mais d'avoir été inclus dans le corps mystique du Christ afin de pouvoir y travailler avec succès à notre salut. C'est donc par et en notre chef, Jésus-Christ, que notre jeûne, notre mortification, etc., porte du fruit. Tout est fait pour l'amour de lui. C'est pour cela qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'étonner, on ne doit pas s'étonner en tant que chrétien si nous sommes découragés à l'entrée du carême, de savoir que nous allons nous engageons dans cette très longue, dans cette relativement longue période de 40 jours, et durant lesquels nous pratiquerons la mortification, spécialement par le jeûne et l'abstinence. Et souvent, ou parfois, disons que nous pouvons être en quelque sorte découragés à cette idée. Alors, il y a plusieurs raisons que l'on peut discerner à l'origine de ce découragement. Il y a d'une part une raison très lointaine, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la saison. Nous sommes là au cœur de l'hiver, et il ne faut pas oublier qu'il fait souvent en février, en mars, il fait plus froid même qu'en décembre, de telle sorte que nous sommes en quelque sorte, tant par la grisaille du ciel que par le froid de la température, nous sommes quelque peu découragés, et l'idée de manger moins peut en quelque sorte avoir un effet plus dévastateur que le jeûne même. On se dit, il fait froid, il fait triste, il fait sombre, et en plus on va moins manger. Et ça nous abat déjà. Évidemment, vous allez dire, moi je n'en suis pas là. Non, mais vous pourriez. Il se trouve que c'est une cause de découragement que l'on peut comprendre, qu'il faut la garder à l'esprit, si des fois on s'imagine au début du carême que l'on est subitement et systématiquement abattu. Des fois, il y a juste une prise de conscience de cette cause physiologique, en quelque sorte, pour pouvoir, disons, demander à Dieu les grâces dont nous avons besoin pour sortir de cette sorte d'illusion dans laquelle notre esprit nous place. Évidemment, il y a des causes de découragement plus grandes, bien entendu, qui viennent plus spécialement du vieil homme ou du diable. Nous parlerons du diable un peu plus tard. Il se trouve que, bien souvent, le vieil homme qui a, durant toute l'année, ses commodités, plus ou moins, en tant que chrétien, mais enfin quand même, se trouve en quelque sorte abattu, triste, non pas diminué et engourdi, mais rendu en quelque sorte comme furieux et irrité par la perspective du carême. Le fait de devoir se priver de certaines choses, le fait de ne plus avoir ses aises, le fait de retrancher un certain nombre de choses, tant dans notre nourriture que moralement aussi, nous y viendrons, tout ceci irrite notre vieil homme, et nous sommes comme les gouverneurs d'une cité, avec au sein de cette cité un certain nombre de joyeux lurons qui n'en font qu'à leur tête tout au long de l'année, et vient un moment où, pour des raisons de stratégie, il faut se serrer la ceinture, parce que des ennemis approchent, et ce n'est pas le moment de dilapider. Et nous, le gouverneur est confronté à cette foule de gens écervelés, qui protestent, qui voudraient continuer à faire la fête, qui voudraient continuer à n'en faire qu'à leur tête, alors que ce n'est plus le moment. Abordons le carême sous cet angle-là aussi, voyons-nous nous-mêmes comme une cité avec, dont nous sommes, par la grâce de Dieu, le gouverneur, quand même, dans le Christ, c'est l'homme nouveau, nous sommes tout de même baptisés, donc nous sommes du côté de Dieu, mais il y a plein de choses, plein de personnes, plein d'éléments dans cette cité, dans cette petite cité que nous sommes, qui s'opposent à cette décision. Prenons conscience que nous sommes à nous-mêmes nos pires ennemis par bien des côtés. Nous devons néanmoins tout faire pour l'amour de Dieu, de telle sorte que si nous éprouvons quelques découragements en début de carême, nous devons bien sûr nous, en quelque sorte, si l'on peut dire, nous secouer, même spirituellement parlant, nous devons nous raisonner, nous secouer, mais nous devons aussi nous souvenir que nous devons tout faire pour l'amour de Dieu. Car il y a des gens qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, arrivés en début de carême, s'imaginent qu'ils sont confrontés à un défi, comme on dit dans le monde, qui sont confrontés à un défi et que l'Église requiert d'eux une performance. Vous voyez, aujourd'hui, on fait toutes sortes de performances en sport, dans le milieu culturel, dans le milieu artistique, comme on dit, et il se trouve que beaucoup de gens, plus que jamais, si l'on peut dire, mais dans un sens très, très superficiel, les gens se dépassent aujourd'hui. Ils font des choses, on voit des choses tout à fait extraordinaires, mais ce sont des performances qui, et plus que jamais, nous pouvons dire avec notre Père Saint-Augustin que toutes ces performances que l'on voit, et qui sont sous un certain rapport admirable en leur genre, bien entendu, nous ne disons pas que ce ne sont pas des performances, nous disons qu'elles sont admirables en leur genre, mais comme dit notre Père Saint-Augustin, plus que jamais, on voit que tout ceci, c'est la chose qui motive ces performances, c'est l'orgueil. Alors, vous avez dit un orgueil légitime peut-être, mais en tout cas pas un orgueil qui est compatible avec la vie chrétienne. Donc, d'un côté, nous ne devons pas nous laisser décourager par notre vieil homme, par notre corps, par notre chair, qui se révolte contre l'institution du carême, mais d'un autre côté, nous devons aussi refuser les encouragements du même vieil homme, qui est très polymorphe, et qui va nous pousser à oublier complètement l'amour de Dieu et à nous livrer à une performance, jeûner le plus longtemps possible, boire le moins longtemps possible, lire le plus de livres possible, faire le plus de prières possible, que sais-je, si seulement ça pouvait être ça vraiment. Mais en réalité, si nous le faisons pour faire une performance et non pas pour l'amour de Dieu, alors, évidemment, c'est toujours le même vieil homme qui, tirant la couverture à lui, s'apprête à nous priver des mérites que nous pouvons obtenir durant le carême. Donc faisons très attention, prenons les armes, ces armes de la justice à droite et à gauche. Ce n'est pas parce que, comme dit saint Paul dans l'Épître, ce n'est pas parce qu'on est garanti, on est protégé et on est conscient qu'il faut placer le bouclier d'un côté qu'il ne faut pas placer l'épée de l'autre. Bien entendu, il y a ou bien le découragement ou bien le désir de faire la performance. Attention, le diable se servant de notre corps pour nous tenter, c'est bien lui qu'il faut combattre, désarmer et vaincre en utilisant ce corps. Le diable, bien souvent, nous fait faire des excès d'intempérance, d'une manière ou d'une autre. Le diable nous fait faire toutes sortes d'excès en tout genre. Eh bien, nous devons utiliser l'outil par lequel nous a fait faire ces excès pour le combattre. Et cet outil, c'est notre corps. C'est pour cela que nous devons mortifier notre corps, chacun selon ses possibilités, bien entendu, dans le cadre des commandements de l'Église. S'il faut quelques atténuations extraordinaires, il faut les demander à l'autorité ecclésiastique qui les donnera volontiers, en imposant une compensation, bien entendu. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut faire servir notre corps pour désarmer, combattre et vaincre le diable qui, si souvent, nous a fait tomber par le moyen de nos membres. Nous devons donc, par son affaiblissement, l'affaiblissement de la vigueur du corps, faire une arme contre le diable. Bien souvent, lorsque nous sommes en très bonne santé, eh bien, le diable utilise la vigueur de notre corps pour nous tenter, pour nous faire tomber. Eh bien, pendant le carême, il ne s'agit pas de tomber dans un état qui serait décrit comme étant une mauvaise santé, mais nous serons plus faibles, puisque nous mangerons moins, nous mangerons relativement moins, nous ferons un certain nombre d'activités pénibles, spécialement dans la prière et dans l'utilisation des temps arrachés au repas et donnés à Dieu pour la méditation, pour la prière, pour la lecture, les bonnes lectures. Alors il nous faudra faire attention d'utiliser cette relative faiblesse dans laquelle nous nous trouverons progressivement au cours du carême pour l'utiliser comme l'arme, une des armes les plus puissantes contre le diable. Le diable se sert contre l'homme nouveau de la vigueur du corps, et bien nous devons utiliser la faiblesse du corps contre l'homme ancien, qui est la marionnette du diable, comme vous le savez. En quoi consiste le carême? Eh bien, il consiste essentiellement dans l'abstinence de viande, dans le jeûne. Alors, il y a toutes sortes d'atténuations qui ont été apportées durant ce dernier siècle. Dans notre communauté, comme vous le savez, nous jeûnons tout le carême, nous faisons aussi abstinence tout le carême. Alors, les religieux ne jeûnent pas de la même manière que les laïcs, bien entendu, puisque nous ne sommes pas dans le même état. Mais il se trouve qu'il est bon, il est très louable, eh bien, de ne pas manger de viande durant tout le carême, sauf les dimanches, et si l'on veut, on n'est pas obligé, mais disons si l'on veut, et il se trouve qu'il est bon aussi de jeûner, selon son état, bien entendu, mais de jeûner, c'est-à-dire de ne prendre qu'un seul repas, et éventuellement avec une ou deux petites collations, comme vous le savez, selon les règles de l'Église, mais il est bon de jeûner, de pratiquer l'abstinence tous les jours, de telle sorte que nous puissions au moins imiter un tout petit peu ce que faisaient nos pères dans la foi, dans l'Église primitive, et même encore jusqu'au 19e siècle en réalité. Hein. Au 18e siècle, on devait encore, nous avons plein de mandements encore des évêques diocésains, qui permettent ou pas à certaines personnes d'utiliser en carême des œufs et des laitages. Au XVIIIe siècle, dans ce siècle si raffiné, si mondain. évidemment, à chaque époque, sa discipline. Mais il se trouve qu'au moins, nous essayons de faire le maximum que nous pouvons, encore une fois, non pas par performance, non pas pour imiter d'une façon orgueilleuse des chrétiens qui sont devenus inimitables sous un certain rapport, du point de vue physique, du moins, essayons d'être dans leur esprit. Essayons de faire vraiment ce jeûne, tâchons de jeûner durant tout le carême et de nous abstenir de viande. C'est assez étonnant de voir que beaucoup de gens qui n'ont que Notre-Dame de la Salette à la bouche sont les premiers à courir à la boucherie comme des chiens en carême sous prétexte de discipline, etc. Tout ceci est assez risible. Abstenons-nous de viande, mes très chers frères, jeûnons. Mais jeûnons aussi non seulement de nourriture, ça c'est la moindre des choses, et puis c'est obligatoire, mais retranchons aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre du jeûne de l'âme, si l'on peut dire. C'est-à-dire retranchons un certain nombre de loisirs, un certain nombre de distractions, retranchons des amusements, des divertissements, vous voyez, des choses qui, j'ose imaginer, sont des choses qui sont licites pour les chrétiens. Je ne dis pas abstenez-vous des choses mauvaises, ça c'est, je le dirai toute l'année. L'Église nous dit abstenez-vous absolument de tout ce qui peut être péché. Mais il y a des choses qui sont relativement autorisées, qui sont relativement licites, qui sont relativement compatibles avec la vie chrétienne. Quand je dis relativement, c'est très relativement. Et ces choses-là, de temps en temps, nous en usons pour nous divertir plus ou moins licitement, mettons, soyons larges, soyons très larges, n'entrons pas dans le détail. Eh bien, ces choses-là, c'est le moment de s'en priver. C'est le moment de faire jeûner notre âme, et Dieu sait si nous tirons toutes sortes de bonnes choses du jeûne du corps, puisque nous l'affaiblissons et donc nous devenons plus forts pour flageller le diable. Et puis il se trouve aussi qu'il y a, bien entendu, c'est vrai aussi, des vertus pour le corps aussi, au jeûne. C'est pour cela que c'est un bienfait que Dieu nous donne, mais c'est absolument pas pour cela que nous faisons le carême, mais cela dit, c'est vrai aussi. Eh bien, il faut de même jeûner dans les diverses concupiscences de notre âme, de la partie basse au moins de notre âme, de telle sorte que notre âme se désintoxique, si j'ose dire, de toutes sortes de choses qui, pour ne pas être illicites, n'en sont pas forcément très bonnes. Vous voyez, il y a un certain nombre de nourritures qui ne sont pas illicites, mais qui ne font pas forcément du bien à notre corps. Il y a un certain nombre d'occupations mentales, je ne dis pas intellectuel, mais mental, comme des divertissements, des distractions, des amusements, qui ne sont pas forcément interdites, mais qui ne font pas forcément de bien à notre âme. Jeûnons fondamentalement d'Internet, et c'est pour dire le moins, parce qu'il faudrait l'usage le plus restreint possible durant tout le reste de l'année, mais jeûnons. Vous voyez, de toutes ces choses que l'on peut aller voir pour se distraire, et des distractions licites, si j'ose dire, des petites choses, des choses intéressantes, des choses culturelles, des choses, que sais-je, même d'un point de vue, ou même du point de vue des informations, des choses comme ça. Jeûnons de toutes ces choses-là, mes très chers frères, et vous verrez que ce jeûne aura très rapidement des effets encore plus remarquables que le jeûne du corps. Si nous nous privons volontairement de ces amusements, de ces divertissements, de ces loisirs, ces distractions, alors nous verrons que notre esprit, curieusement, je ne dis pas immédiatement, mais arrivera à mieux se concentrer, à mieux, bien sûr, ça arrivera progressivement. Mais tout d'un coup, notre esprit prendra conscience que toutes ces choses-là ne sont pas aussi innocentes ou aussi, non nocives qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas parce que nous nous abstenons de péchés mortels que les péchés véniels ne sont pas, que nous ne devons pas nous abstenir des péchés véniels. Il faut s'abstenir des péchés mortels en tout temps. Et lorsque l'on fait très attention aux péchés véniels et qu'on les déteste comme on déteste les péchés mortels, alors on s'aperçoit que ces péchés véniels sont aux péchés mortels, si j'ose dire, un petit peu ce qu'un dragon est à une puce. Ou une puce est un dragon. C'est-à-dire que si vous regardez un dragon, vous voyez un animal monstrueux qui fait peur et qu'on voudrait tuer. Mais si vous regardez une puce avec un microscope ou une grosse loupe, vous allez voir un monstre aussi, un monstre crochu, un monstre dont la mâchoire est faite pour sucer le sang, une sorte de vampire avec des pattes crochues, avec un dos courbé, avec une tête hideuse. Vous allez dire, ce n'est qu'une puce. Oui, mais des dragons, on n'en voit pas souvent. dans la vie. En revanche, des puces, on peut être assailli par les puces, par plusieurs puces à la fois. Et non seulement c'est irritant, mais en plus ça peut nous affaiblir si les puces ou les tiques, les choses comme ça viennent et nous pompent notre sang d'une façon inconsidérée. Donc, vous voyez, c'est une bonne chose que de s'abstenir des péchés mortels, mais d'une certaine manière, dans la vie du juste, le péché mortel est une chose plutôt rare. Maintenant, le péché véniel, il se trouve qu'il est beaucoup plus fréquent. Alors, quand on a à combattre des dragons et qu'en plus on est dévoré de puces, vous voyez, c'est le moment de se secouer, si j'ose dire, et c'est le moment de faire ce que l'Église incite tous les chrétiens à faire, ordonne à tous les chrétiens de faire actuellement dans le carême, afin de pouvoir nous débarrasser de nos ennemis grands et petits. Bien sûr, il faut combattre les péchés mortels, parce qu'ils sont bien plus présents qu'on peut l'imaginer dans notre vie, mais il ne faut pas négliger aussi les petits renards qui mordillent notre vigne, comme dit l'Écriture, toutes ces bêtes qui sont là, avec lesquelles nous vivons en une sorte de symbiose, si l'on peut dire, qui ne sont pas bien méchantes, mais qui, d'une certaine manière, sont nocives. Et de temps en temps, elles peuvent même inoculer des maladies très graves. Comme vous le savez, la grande peste noire est venue par les rats, et spécialement, les scientifiques d'aujourd'hui ont déterminé que, apparemment, ça serait par les puces des rats, puisque les rats ne mordent pas, habituellement, les rats ne mordent pas les gens la plupart du temps. Mais les puces des rats qui suçaient le sang de ces animaux contaminés par la peste, eh bien, piquant aussi les hommes, car les puces piquent tout le monde, eh bien, ont inoculé à l'homme cette maladie terrifiante. Donc vous voyez, mes très chers frères, méfions-nous de ces petites choses, méfions-nous de ces choses dont nous devons absolument jeûner durant le carême, afin de pouvoir nous concentrer dans cette grande guerre que nous faisons d'une façon presque prototypique pendant le carême, puisqu'elle doit se poursuivre durant toute l'année et toute la vie, contre le diable et son allié principal qui est la chair ou le vieil homme. Le carême est en concentré, si l'on peut dire, ce que la pratique de la vie chrétienne est en grand, si l'on peut dire. Le carême est la pratique de la vie chrétienne telle qu'elle doit être en réalité. Nombreux sont ceux qui, je l'espère, ayant bien profité du carême, gardent de bonnes habitudes durant tout le reste de l'année. Et d'année en année, ces bonnes habitudes durant l'année sont en quelque sorte retrempées, refortifiées, fortifiées à nouveau durant tous les carêmes que l'on fait, de telle sorte que plus le temps passe, plus aussi la vie chrétienne devient un carême perpétuel et nous devenons de plus en plus forts. Il y a là quelque chose sur laquelle je dois attirer votre attention, mes très chers frères, c'est que bien souvent on parle du carême, d'une part comme si c'était une période éternelle qui devait durer un temps indéterminé, et ça ne joue pas un petit rôle dans le découragement que nous pouvons éprouver, en tout cas certains d'entre nous, en début de carême. Et d'un autre côté, on parle du carême aussi comme de quelque chose de totalement différent, sous un autre rapport, de totalement différent de la vie chrétienne. Eh bien, je vous dirais, n'oublions pas une chose fondamentale, c'est que la vie est courte, et que les carêmes qui sont bien faits se comptent probablement sur les doigts d'une main, ou peut-être des deux mains, ou en comptant les pieds si vous voulez, mais enfin, jusqu'à l'âge de 7 ans, Les petits chrétiens doivent être encouragés à se priver de certaines choses, spécialement de friandises, de petites choses comme ça, mais à partir de l'âge de 7 ans, ils sont tenus de pratiquer l'abstinence. À partir de l'âge de 21 ans, qui est la majorité chrétienne, ils sont tenus de pratiquer le jeûne, et ce jusqu'à l'âge de 60 ans, sachant que à partir de 7 ans, l'abstinence est pratiquée jusqu'à la mort, puisque rien ne peut dispenser de l'abstinence. En revanche, le jeûne, c'est de 21 à 60 ans en général, mais il se trouve que, d'une certaine manière, nous avons dans toute notre vie, la vie d'un homme qui vivrait une longueur de vie normale, nous avons relativement un certain nombre relativement grand de carêmes, mais qui n'est pas aussi grand que nous pouvons l'imaginer. Le nombre de carêmes que nous avons à faire, que nous vous aurons à faire, est quand même relativement beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint que nous pouvons l'imaginer. Donc si chaque année nous ratons le carême en disant « l'année prochaine je ferai mieux », mais en même temps le carême c'est gigantesque, c'est immense, c'est insupportable, c'est infini, disons-nous simplement non, mes très chers frères, raisonnons-nous, il faut utiliser la raison, raisonnons-nous, le carême n'est que 40 jours, 40 jours si on accepte les dimanches, durant lesquelles on ne jeûne pas, 40 jours, 40 jours c'est peu sur 365, en même temps 40 jours, 40 jours de bienfaits spirituels, 40 jours où nous sommes aidés par le fait que tout le monde fait la même chose que nous, 40 jours durant lesquels Dieu donne des grâces particulières, et 40 jours c'est très peu. 40 jours, qu'est-ce que c'est? C'est un mois plus 10 jours. Donc vous voyez, raisonnons-nous et disons-nous, probablement dans ma vie, j'aurai bien moins l'occasion de faire carême que je pourrais l'imaginer. Peut-être même que je tomberai malade avant ma 60e année et que je serai dispensé de jeûner à cause de la trop grande faiblesse de mon corps. Donc combien de carême serais-je capable de pratiquer, de faire, de passer et de bien passer? En réalité, encore une fois, vous voyez, les bons carêmes se comptent sur les doigts d'une main, peut-être des deux. Raisonnons-nous, ne nous laissons pas aveugler par le diable qui est grandiloquent et qui nous fait voir les choses telles qu'elles ne sont pas. Le carême est un temps très court, en réalité. C'est un temps très court, c'est un temps très rare dans la vie d'un homme. Ne perdons pas ce temps. C'est pour cela qu'en ce début de carême, saint Paul nous dit, en citant l'Écriture, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, l'année précédente, peu importe si on a fait un bon carême, l'essentiel c'est de faire un bon carême cette année, l'année prochaine peut-être je serai mort. Alors mes très chers frères, nous devons faire ce carême comme si c'était le dernier carême. Vous voyez, ça bien sûr tous les prêtres le disent en ce premier dimanche de carême, nous le disons aussi bien entendu car nous le devons, mais faisons ce carême comme si c'était la dernière fois qu'il nous était donné de faire carême. Nous regretterons, même si nous sommes sauvés, même si nous parvenons à l'éternité, lorsque nous serons dans une petite place quelque part dans le royaume céleste, eh bien nous regretterons sous un certain rapport, je parle en humain bien entendu, je ne pense pas que ça soit vraiment le cas comme cela, mais nous regretterons de ne pas avoir aimé autant, d'avoir autant aimé ce Dieu que nous aurions pu le faire durant le temps où nous pouvions encore l'aimer et mériter en l'aimant. Vous voyez, spécialement les âmes du purgatoire, eh bien, regrettent de ne pas avoir fait tout ce qu'elles auraient pu faire ici-bas. Elles ne le regrettent pas égoïstement en disant je suis là, je pourrais être ailleurs. Elles le regrettent parce que, comme dit saint Alphonse, elles aiment tellement ce Dieu pour accéder auquel elles doivent être purifiées, qu'elles regrettent de ne pas l'avoir plus aimé dès qu'elles ont eu le temps de commencer à pouvoir l'aimer. Nous sommes encore dans ce temps, nous ne sommes que des chrétiens en état de voie, nous ne sommes pas encore morts, nous ne sommes pas encore au purgatoire, nous ne sommes pas encore au ciel, et nous ne sommes toujours pas en enfer. Donc, que Dieu nous garde. Mes très chers frères, utilisons notre raison pour prendre conscience que le jeûne quadragésimal n'est pas quelque chose d'aussi épouvantable que cela. L'Église ne nous demande pas de jeûner comme notre Seigneur a jeûné. Elle ne nous demande pas de jeûner aussi comme certains ascètes jeûnent ou ont jeûné dans le désert ou ailleurs. Elle nous demande simplement de faire ce qu'elle nous demande, c'est-à-dire de jeûner selon la discipline qui est la nôtre et de nous abstenir de viande, de telle sorte que nous et de toutes sortes d'autres choses, de telle sorte que nous puissions employer ce temps aux bonnes œuvres et pour mieux aimer notre Dieu. Donc maintenant, passons à notre deuxième point. Nous allons voir brièvement comment notre Seigneur Jésus-Christ a réparé la faute d'Adam. Vous remarquez que Adam était dans le paradis, le paradis terrestre, et que le diable s'étant approché, c'est vrai qu'il s'est approché d'Ève en premier, mais le diable s'étant approché, il est tombé. Notre Seigneur fait de ce désert un paradis, il est mené conduit au désert par l'Esprit Saint, et dans ce désert, le nouvel Adam fait de ce désert un paradis, de telle sorte que privé de tout, contrairement à notre premier père qui avait tout en abondance, privé de tout, jeûnant 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable et il a triomphé de cette tentation. Il a défait, c'est lui véritablement qui a défait la faute d'Adam. Et on dit la même chose pour la Sainte Vierge par rapport à Sainte Ève, notre mère, mais il se trouve que c'est dans le Christ, car la Sainte Vierge ne fait rien, sinon, comme nous, si l'on peut dire, mais à un degré suréminent, dans le Christ. Si elle a triomphé du serpent ancien, eh bien c'est dans le Christ, parce que le Christ a triomphé du serpent ancien. C'est lui qui a défait l'œuvre de la chute, c'est lui qui nous a mérité de pouvoir triompher du démon. Alors tout d'abord, le diable, comme il a faim, comme notre Seigneur a faim, le diable lui dit donc de transformer des pierres en pain. Notre Seigneur n'a pas refusé, il a opposé à la tentation du diable, à la suggestion du diable, la parole de Dieu. Il a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce faisant, disent les commentateurs, il a défait la gourmandise de notre premier père. Nulle nécessité, la gourmandise, on peut se dire, notre premier père a vraiment péché de façon très bête. En revanche, en réalité, comme je le dis volontiers, ne jetons surtout pas la pierre à notre premier père Adam. Si nous avions été à sa place, nous, individuellement, nous aurions fait mille fois pire. Ne jetons pas la pierre. Il a péché par un péché très mystérieux, qui est un péché de gourmandise. Eh bien, ce péché de gourmandise, notre Seigneur l'a défait, il a délié le lien, le nœud opéré par le péché de gourmandise, en disant que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nulle nécessité ne doit jamais nous faire sortir de l'ordre de Dieu par nous-mêmes, puisque notre Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas fait, nous dit un auteur. Nous devons garder toujours l'ordre des choses, et quand bien même nous aurions le pouvoir de transformer des pierres en pain, nous ne devons pas faire ce que Dieu ne nous autorise pas à faire. La réponse de notre Seigneur nous montre que Dieu, mais qui a pourvu à un pain supérieur, c'est-à-dire sa parole qui nous nourrit, qui nourrit notre âme pour la vie éternelle, ce Dieu qui a pourvu à un pain supérieur pourvoira aussi à l'inférieur. C'est-à-dire que dans la mesure où nous faisons la volonté de Dieu, manifestée par les commandements de Dieu, ou le dit commandement, ou les commandements d'Église, comme en ce temps de carême, il se trouve que dans la mesure où nous faisons la volonté de Dieu, Dieu prendra soin de nous. Donc ne nous disons pas, si je jeûne pendant le carême, je vais être faible, donc je ne vais pas pouvoir faire mon devoir d'État, etc. Si vous avez un doute, consultez, bien entendu, tous les devoirs d'État sont très différents, en général, mais ne nous laissons pas dire que, d'une manière générale, le jeûne du carême a quelque chose de contraire à l'ordre des choses, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Disons-nous plutôt que si nous nous soumettons à ce jeûne et à cette abstinence durant tout le carême, Dieu prendra soin de nous. Ça, c'est une certitude. Il nous faut donc avoir confiance en Dieu et faire preuve de fidélité. Ensuite, le diable a transporté notre Seigneur sur le haut le pinacle du temple, en lui citant ces paroles d'un psaume, en lui disant « Il a donné des ordres à votre sujet et ils vous porteront dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. » Et notre Seigneur lui répond « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il y a là quelque chose de très important dans ce deuxième combat du Christ contre le diable, c'est que premièrement, notre Seigneur a vaincu et défait la curiosité de notre premier père Adam. Adam a été intéressé par le fait d'une mendication qui allait lui ouvrir des perspectives. Notre Seigneur n'a pas cédé à la tentation de mettre Dieu à l'épreuve. Effectivement, plus qu'à quiconque, ces paroles du psaume 90 s'appliquent à notre Seigneur. Notre Seigneur n'a jamais trébuché. C'est pour cela que dans certains films, on voit notre Seigneur qui trébuche. C'est une erreur, c'est une grave erreur théologique. Notre Seigneur n'a jamais trébuché. Notre Seigneur n'a jamais trébuché. Pourquoi ? Parce que les anges l'ont toujours garanti contre toute chute. L'homme, tel que nous sommes, l'homme chute. Pourquoi ? Parce que l'homme est pécheur. L'homme ne pense pas à tout. L'homme est distrait. L'homme est trompé. L'homme peut rater une marche. L'homme peut s'achoper sur une pierre. Notre Seigneur, qui est l'homme parfait, n'a jamais eu la moindre chute, n'a jamais connu la moindre chute. Et c'est à juste titre que le diable citait ce psaume à propos du Christ, puisque le Christ est véritablement celui qui est gardé en toute chose, et même physiquement, par les anges, afin que son pied ne heurte contre aucune pierre. Mais qu'a dit le Christ ? Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Quand bien même il est vrai que Dieu apposte des anges pour nous garantir contre tout danger, nous ne devons pas tenter Dieu. Je pourrais donner toutes sortes d'anecdotes à ce sujet, je les réserve peut-être pour une autre fois. Tenter Dieu, c'est véritablement faire une sorte de pacte avec le diable, sans s'en rendre compte. Notre Seigneur a défait la curiosité de notre premier Père en rejetant la tentation de mettre Dieu inutilement à l'épreuve. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu, dit un auteur, qu'il s'abstient de tenter son Père. Il y a une grande sagesse dans ce commentaire. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il s'abstient de tenter son Père. Ceux qui veulent tenter Dieu, ceux qui sont curieux de tenter Dieu, montrent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Car s'ils connaissaient Dieu, ils sauraient qu'on n'a pas besoin de tenter Dieu parce qu'on peut faire confiance à Dieu. Vous voyez ? On tente Dieu comme... On met un coup de pied, on tape un petit peu avec son pied sur une planche qui est mise au-dessus d'un précipice pour voir si la planche est assez solide. Si vous savez que le pont est solide, alors même que le précipice descend jusqu'en enfer, vous pouvez passer gaiement et en toute confiance sur le pont parce que vous savez qu'il est solide. Mais si vous ne connaissez pas le pont, alors vous tapez du pied avec votre pied dessus pour voir s'il résiste et s'il est fiable. Si vous connaissez Dieu, vous n'avez pas envie de le tenter. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez envie de le tenter. Méditez bien ces choses-là, mes très chers frères. Il y a beaucoup plus que l'on peut s'imaginer derrière ces affirmations. Satan, vous l'avez remarqué, ici, contrairement à la première tentation, tente en citant les choses les plus saintes. Que parmi les choses les plus saintes que le chrétien puisse posséder, c'est-à-dire l'écriture sainte, la tradition écrite. Le diable lui dit, il est écrit, il a donné des ordres à ses anges, à votre sujet, etc. Et notre Seigneur dit, il est aussi écrit. C'est un combat, non pas de l'écriture contre elle-même, mais de la foi en Dieu contre le mauvais usage des choses sacrées. L'Église a une telle horreur de l'usage que le diable a osé faire de l'Écriture sainte que, vous l'avez remarqué, c'est la seule fois dans l'année où ça arrive, qu'elle a mis la quasi-totalité du psaume 90 dans le graduel et dans le trait. Le graduel est long, la longueur du graduel est normale, mais le trait est extrêmement disproportionné parce que la quasi-totalité du psaume 90 s'y retrouve, et notamment les paroles citées par le diable. Car le Seigneur a donné ordre à ses anges à votre sujet et de vous garder dans toutes vos voies, ils vous porteront dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre du pierre. L'Église a une telle horreur de cette appropriation par le diable de ce verset du psaume 90 qu'elle nous cite la quasi-totalité de ce psaume. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Église n'abandonne pas ce psaume au diable. Vous voyez, bien souvent, lorsque des protestants citent l'Écriture sainte, On leur dit, oui, mais de toute façon, l'Écriture sainte est remplie d'obscurité, l'Écriture sainte est remplie de coquilles, de fautes d'impression, de fautes de traduction, personne ne peut lui faire confiance, il ne faudrait pas lire l'Écriture sainte est une lecture pernicieuse et mauvaise. Alors vous allez dire, moi je ne dis pas ça. Eh bien, tant mieux pour vous, mais malheureusement, on l'a dit et on continue à le dire. Pas tous, bien sûr, mais certains. Alors, mes très chers frères, voyez, ça c'est terrible parce que c'est abandonné au diable, ou à l'hérésie plus précisément, dans le cas des protestants, c'est abandonner aux protestants quelque chose qui nous appartient à nous. L'Écriture sainte, si les protestants l'ont et la brandissent, c'est qu'ils sont comme des voleurs qui ont emporté quelque chose de très précieux dans la maison de leur père qu'ils ont abandonné, et ils vont partout disant qu'ils sont très riches. Mais, ils sont très riches de quelque chose qu'ils ont dérobé, d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu dérober, puisque l'Écriture sainte ne leur appartient pas à eux, elle appartient à l'Église. L'Église... lorsqu'elle voit que le diable s'empare d'un verset de l'Écriture sainte pour faire le mal, elle affirme le même verset, car elle seule possède l'autorité suffisante et nécessaire pour manipuler ce glaive à double tranchant qu'est l'Écriture sainte. Nous ne devons jamais rien abandonner à nos ennemis. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il nous faut passer. Elle nous donne d'ailleurs la clé de ce psaume. Elle nous donne la clé de ce psaume, que le diable ne cite bien entendu pas, puisqu'il est écrit, c'est le premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera sous la protection du Dieu du ciel. Cui habitat in adiutorio altissimi, in protectione dei cieli comme moravitur. » Nous n'allons pas faire une exégèse de ce verset, mais disons simplement que le verbe « habiter » ici, dans l'hébreu, signifie « être assis ». Celui qui est assis, celui qui habite, c'est-à-dire celui qui est campé. Celui qui est campé. Celui qui est assis, qui est campé dans son état, en réalité. Le Christ, par excellence, dont l'état en tant qu'homme est d'être le Messie promis par Dieu, eh bien, le Christ était solidement campé dans son état. Tel nous devons être, chacun dans notre état particulier. Chacun dans notre état, nous devons être campés là où nous devons être et ne pas nous en détourner ni à droite ni à gauche, nous ne pas en sortir, de telle sorte que nous puissions bénéficier de la protection, effectivement, de Dieu qui est promise dans ce psaume. Que voulait induire le diable? Il voulait, en transportant notre Seigneur sur le pinacle du temple, eh bien, il voulait faire en sorte, l'induire en quelque sorte, à démontrer qu'il était bien le Messie légitime, le Fils de Dieu, en sortant de son état. C'est subtil, mais c'est très réel. L'état du Messie, qu'est-ce que c'est? C'est l'état de fils naturel de Dieu, fils de Dieu selon la nature divine. Il est le vrai Fils de Dieu. En tentant Dieu, comme je l'ai dit, il aurait montré qu'il ne connaissait pas Dieu. Puisque, ne voulant pas, il ne l'a pas tenté parce qu'il était véritablement son fils. En voulant passer pour des super chrétiens et en sortant de notre état, nous cédons à la malice du diable qui nous fait tenter Dieu de telle sorte que, et cela se voit assez souvent, eh bien, croyant vivre de la foi, croyant vivre comme les oiseaux du ciel et les lys des champs, eh bien, il se trouve tout simplement que nous tentons la plupart du temps fort maladroitement, heureusement pour tout le monde, mais nous tentons de dépouiller les brebis du bon Dieu. Nous tentons de leur tondre la laine sur le dos, sous prétexte de notre ministère, sous prétexte de notre apostolat, sous prétexte de nos affaires, si ça et l'autre. Nous tentons, vous voyez, nous tâchons de dépouiller notre prochain en nous prenant pour les lys des champs et pour les oiseaux du ciel. Mes très chers frères, celui qui habite sous l'aide, adiutorio, du Très-Haut. Que de belles choses il y aurait à dire dans ce simple verset. Nous le verrons peut-être une autre fois avec l'aide de Dieu. Celui qui est campé dans l'aide du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Dieu d'Abraham en réalité ici. Celui qui est campé dans l'aide du Très-Haut restera, comme moravitur, sous la protection du Dieu du ciel. In protectione dei cieli, comme moravitur. Celui qui est campé dans son état restera sous la protection du Dieu du ciel. Il restera sous l'abri du Dieu du ciel, c'est-à-dire dans la norme du degré de la hiérarchie où il est placé. La loi de notre état nous protège. La loi de l'état sacerdotal protège les prêtres. La loi de l'état religieux protège les religieux. La loi de l'état marital protège les pères de famille, et ainsi de suite. La loi de notre État nous protège. Et c'est cela qui est très maladroitement traduit la plupart du temps sous l'égide du Très-Haut. C'est un emprunt au paganisme, il vaudrait mieux utiliser un autre mot. Mais qui habitat in adiutorio, celui qui habite à l'abri du Très-Haut, eh bien, c'est celui qui vit conformément à la norme et à la loi du degré de la hiérarchie où la Providence l'a placé. Dieu ne protège que ceux qui sont campés dans l'ordre que lui-même a instauré. D'où, évidemment, la relative multitude de faux martyrs, des gens qui font strictement n'importe quoi et qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent avec des procès, qui se retrouvent avec toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des martyrs, ce ne sont pas des gens qui ont été attaqués par le diable, c'était des gens, que Dieu les protège, les garde et surtout les convertisse, c'était des gens qui n'étaient pas campés à l'abri du Très-Haut. C'était des gens qui étaient sortis de leur ordre, Et quand on sort de son ordre, ce n'est pas étonnant qu'on se fasse mordre, si j'ose dire. Et le diable, ou plutôt l'Église, ici contre le diable, cite un verset fondamental de ce psaume qui montre que lorsque nous abandonnons au diable, aux hérétiques, etc., les choses qui appartiennent à l'Église, en réalité nous privons pas l'Église, heureusement qu'il n'a pas besoin de nous, mais nous privons des armes même de l'Église. Le diable a été bien maladroit, si j'ose dire, que Dieu nous garde de sa malice, mais le diable a été très maladroit en citant précisément le psaume 90. Car quelques versets plus loin, que dit ce même psaume ? Vous marcherez sur l'aspic et le basilic, vous foulerez aux pieds les lions et les dragons. Comment ? La promesse de l'écrasement de la tête du serpent se trouve précisément dans ce psaume. Et la folie du diable, si j'ose dire, car le diable est très déraisonnable en réalité, c'est de citer le psaume même où il est dit que le Messie lui écrasera la tête. Certes, il lui mordra le talon en le faisant mourir, en le faisant mourir sur la croix, en poussant les hommes à le crucifier sur la croix. Le Christ est mort volontairement. Bien sûr, il a cru triompher sous un certain rapport. Mais 3 jours après, ça a été sa défaite définitive. Vous voyez, le diable est bien malvenu de citer le psaume 90, puisque c'est exactement dans ce psaume où il est dit que parce que le Dieu du ciel protège son Messie, il lui donne de fouler aux pieds l'aspic, le basilic, le lion et le dragon. Vous marcherez sur l'aspic. L'écriture bien employée permet de triompher du diable. C'est pour cela, mes très chers frères, selon votre état, devenez familier de l'écriture. Si un chrétien avait été dans la même tentation que notre Seigneur, si j'ose dire, mutatis mutandis, bien entendu, et que le diable lui avait dit, mais écoutez, dans l'Écriture sainte, il est dit, effectivement, il est dit cela, donc vous pouvez y aller. Et que la personne, le chrétien, ne connaissait pas l'Écriture sainte, qu'est-ce qu'il aurait dit ? Il aurait dit, si le diable, bon, c'est le diable, d'accord, mais il cite l'Écriture sainte. C'est quand même l'Écriture sainte, abstraction faite du diable. Mais notre Seigneur dit, il est aussi écrit, rursum scriptum est. Il est aussi, un verset explique un autre verset dans l'esprit de l'Église. La parole de Dieu est véritablement une épée contre laquelle nous triomphons des embûches du diable. Elle est un bouclier qui éteint les traits embrasés du malin. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si, pire, nous la méprisons, car beaucoup de catholiques la méprisent, pas tous, bien entendu, pas tous, et même on peut l'apprécier pour des mauvaises raisons, mais il se trouve que beaucoup la méprisent, beaucoup sont prêts à cracher dessus, beaucoup sont prêts à dire que l'Ancien Testament est plus ou moins rédigé par le diable, du moins par une fausse religion qui n'a plus rien à faire avec nous. Vous voyez, alors vous allez dire, oui, mais ça c'est les martionnistes, tout le monde n'est pas martionniste. Beaucoup de gens sont des martionnistes sans le savoir, et beaucoup de gens même qui sont anti-martionnistes le sont encore plus. Puisque, enfin pour diverses raisons qui sortiraient de notre sujet ici. Mais il se trouve, mes très chers frères, vous voyez, devenez familier des psaumes, devenez familier de la loi de Dieu, devenez familier des enseignements de notre Seigneur et de la geste de notre Seigneur dans le Nouveau Testament, devenez familier des épîtres de saint Paul et des autres apôtres, devenez familier en toute humilité, lisez les bonnes traductions, lisez les bons commentaires, nourrissez-vous selon votre état, bien entendu, non pas par curiosité, mais pour vous munir contre les ruses du démon, et véritablement, vous serez capable, eh bien, de mériter de triompher du démon dans le Christ. Quiconque blasphème contre l'Écriture sainte fait un pacte, là encore, implicite avec le démon. Lorsqu'on parle mal d'Abraham, lorsqu'on parle mal d'Isaac, lorsqu'on parle mal de Jacob, lorsqu'on parle mal de Moïse, eh bien, on fait un pacte avec le diable, en réalité. Et il se trouve que le diable ne nous dira jamais plus suavement que des versets triés sur le volet qui nous feront, eh bien, nous écraser au bas du temple misérablement et comme nous l'aurons mérité. Quiconque blasphème contre l'Écriture sainte est un sataniste. N'allez pas chercher les satanistes, des gens qui se mettent des cornes sur la tête etc., qui font des sacrifices, évidemment. Il y en a, bien entendu, et que Dieu les réprouve ou plutôt les convertisse. Mais il se trouve que celui qui blasphème contre l'Écriture sainte est véritablement un sataniste. Et curieusement, beaucoup de gens qui ne jurent que par la guerre contre l'Antéchrist et contre Satan, eh bien, sont en vérité des satanistes. Mais ça, c'est pas vraiment une nouveauté, tout le monde le sait. Vous voyez, mes très chers frères. Alors, faisons très attention, il faut utiliser le glaive à deux tranchants de l'Écriture sainte, et si on ne la connaît pas, l'Écriture sainte, eh bien, il ne faut pas s'imaginer qu'on va l'utiliser. Quand un Goliath arrivera, nous n'aurons ni pierre, ni épée pour l'assommer, pour lui couper la tête. Et ce sera tant pis pour nous, mes très chers frères. Et la troisième tentation de notre Seigneur, c'est une tentation qui a eu lieu sur cette très haute montagne et qui domine le monde entier, à partir de laquelle on peut voir effectivement tous les royaumes du monde, cette fameuse montagne. Le diable a transporté notre Seigneur sur cette montagne très élevée et il lui a dit, alors toute honte bue comme on dit, « Si je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant vous m'adorez ». Alors, notre Seigneur a dit ces paroles que je ne citerai pas ici parce que c'est inutile, mais ce sont des paroles d'exorcisme. Il lui a dit « Retire-toi, Satan ». Donc, ce sont des paroles qui sont utilisées entre autres, dans les rituels d'exorcisme contre le diable, des paroles très puissantes qu'il ne faut surtout pas dire à tort et à travers, surtout pas pour plaisanter, parce que le jour où vous en aurez besoin, elles seront, vous ne les retrouverez plus, ces paroles. Donc faites très attention, faites très très attention, on ne plaisante pas avec le diable, on le repousse, on le repousse d'autant mieux qu'on est assis à l'abri du Très-Haut. L'orgueil d'Adam, au sommet de la montagne, a été défait par notre Seigneur, et cet orgueil a été défait par l'adoration de Dieu. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Il ne l'a pas laissé parce que du coup il n'avait plus rien à dire. Il a été contraint de se retirer jusqu'à une autre fois, nous dit un autre évangile, c'est vrai, mais il a été contraint de se retirer parce que le diable ne supporte pas l'adoration de Dieu. L'orgueil d'Adam, l'ambition de devenir plus savant qu'il n'avait besoin de l'être, ou trop vite, tout ceci a été défait par notre Seigneur. L'amour des richesses et des grandeurs aussi a été défait par notre Seigneur. Et il y aurait bien des choses à dire sur une forme d'amour des richesses et des grandeurs, surtout des grandeurs, chez tous ces militants qui se donnent en spectacle, qui font des émissions où on parle d'eux, on parle de leur cheminement, on parle de leurs idées, qui ne valent strictement rien la plupart du temps, on parle de leur, on les interroge comme si c'était des oracles. Tout ceci est une réitération du péché d'orgueil de notre Père, le péché d'ambition, le péché de vouloir s'imposer aux autres, le péché de vouloir briller, en toute humilité bien entendu, mais le péché de vouloir briller. Tout ceci est mauvais, tout ceci fait partie du spectacle dont nous devons nous abstenir en temps de carême et durant tout le reste de notre vie bien entendu. Nous devons, mes très chers frères, d'une façon générale, revenons à nos moutons, repousser avec horreur tout ce que désire notre orgueil. Dès que nous sentons et nous voyons, car quand même nous nous connaissons quand même un petit peu, et que nous voyons que quelque chose nous flatte, nous devons en avoir horreur. Lorsque nous faisons l'expérience, un peu par hasard parfois, qu'une parole, un compliment, etc., nous pousse à une complaisance envers nous-mêmes, nous devons en avoir horreur, comme qui passerait à côté d'un précipice, qui verrait un cadavre, qui verrait un lion enragé, et qui voudrait le dévorer. Nous devons repousser avec horreur tout ce que désire notre orgueil. Pourquoi ? Eh bien parce que si nous y consentons, alors nous n'en serons pas plus grands pour autant, mais nous serons les misérables esclaves de la triple concupiscence. Notre Seigneur a triomphé du diable dans le désert, elle a expulsé du désert, si l'on peut dire, en tout cas pour un temps. Lorsqu'il a dit « Retire-toi », il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Notre troisième point, rapidement, veut que le carême, je l'ai annoncé, soit une préparation à la véritable adoration de Dieu. Adorer Dieu, nous dit un auteur, ce n'est pas dire « je vous adore », mais c'est reconnaître Dieu pour l'auteur et le maître de toutes choses. Reconnaître Dieu pour l'auteur de l'être, de la vie et de tout le bien qui est en nous. C'est vouloir adorer Dieu, c'est vouloir bien qu'il en dispose de tout ce qui est en nous, tout ce qu'il a mis en nous, selon sa volonté, et qu'il le fasse servir à ses desseins, à lui et non à nous. Adorer Dieu, c'est lui être vraiment soumis de grand cœur. Adorer Dieu, c'est préférer sa volonté à toute chose. C'est ne vivre et n'agir que pour lui, ne rien estimer que lui ou que ce qui a rapport à lui. Adorer Dieu, Ce n'est pas simplement dire, mon Dieu, je vous adore, vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, je vous adore de tout mon cœur. C'est un bon commencement, notez bien. Mais ce n'est pas cela. Adorer Dieu, c'est dire cela, mais en vérité. C'est dire pas forcément avec les lèvres, pas uniquement avec les lèvres, mais avec le cœur et les actes. C'est pour cela que dans l'oraison, qui est la première oraison du premier dimanche de carême, cette oraison nous fait dire à Dieu, ô Dieu qui chaque année purifie votre Église par l'observance du carême. Une oraison, il y aurait de quoi approfondir parce qu'elle est bâtie d'une certaine manière, elle est assez intéressante. Enfin bon, mettons, elle nous fait dire à Dieu, faites que vos serviteurs accomplissent par leurs bonnes œuvres ce qu'ils s'efforcent d'obtenir de vous par leurs abstinences. C'est-à-dire, en un mot, que la foi sans les œuvres est vaine, et que si nous voulons obtenir quelque chose de Dieu, nous devons manifester au degré, au niveau des œuvres, sur le plan des œuvres, sur le plan des fruits, ce que nous désirons obtenir de Dieu. Alors vous allez dire, mais comment le manifester si nous désirons de l'obtenir de Dieu? Mais très cher frère, la clé en réalité, c'est que nous obtenons beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que dans la mesure où nous demandons, nous obtenons. Parce que notre Dieu, justement, nous ne le tentons pas puisque nous le connaissons. Il est notre Père très aimant, et dès que nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous le donne. Je ne parle pas de diverses grâces, diverses et variées qui servent à notre concupiscence, mais nous demandons des choses qui ont trait à notre vie éternelle. Dès que nous les demandons à Dieu, immédiatement, nous les recevons. Ça, c'est certain. La seule chose, c'est que nous devons en manifester les fruits. Dieu, qui est le seul qui nous sauve, ne nous sauvera pas sans nous. Lorsque nous demandons à Dieu, « Seigneur, donnez-moi la force de surmonter la tentation ne va pas s'évanouir. Nous aurons reçu immédiatement la force. Maintenant, si nous n'utilisons pas la force pour surmonter la tentation, il ne faut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Il faut dire tout simplement que nous n'avons rien à faire d'être exaucés. Lorsque nous sommes face à un Goliath et que nous disons à Dieu, « Seigneur, donnez-moi 5 pierres », et que nous ne faisons pas nous prenons pas la peine de mettre notre main dans notre gibecière, d'armer notre fronde et de viser le front du géant, il ne faut pas s'étonner que nous soyons massacrés par lui. Vous voyez, mes très chers frères. Donc, en réalité, Dieu nous exauce toujours extrêmement rapidement, et c'est à nous maintenant, avec sa force, bien entendu, puisque s'il nous exauce, c'est que nous avons les moyens de le faire, puisque nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, c'est à nous de manifester les œuvres. De manifester du point de vue sur le plan des œuvres cette grâce qui nous est donnée sur le plan de la grâce, justement, sur le plan invisible. Adorer Dieu, c'est donc, mes très chers frères, correspondre à sa raison d'être, à la raison d'être de notre nature. Nous sommes des serviteurs, nous, être des serviteurs utiles, c'est ça qui est notre raison d'être. Être des serviteurs utiles, quoique sous un certain rapport inutiles, mais des serviteurs utiles, glorifier Dieu par nos bonnes œuvres, glorifier notre Père Céleste par l'abondance des bonnes œuvres qui luisent devant les hommes, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, tout ceci ne peut se faire que dans la mesure où, premièrement, nous rectifions notre volonté déviée, en demandant à Dieu les grâces dont nous avons besoin, en le demandant dans l'esprit d'Église, et immédiatement après, et dans le même temps, si j'ose dire, dans le même mouvement, exercer positivement la volonté de Dieu qui nous est donnée sous la forme de la grâce, la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu qui nous est donnée sous la forme de la grâce, eh bien, la mettre immédiatement en pratique, l'exercer positivement dans le cadre de notre état. Mes très chers frères, commençons ce carême dans l'esprit, cet esprit qui a poussé le Christ au désert, commençons ce carême dans l'esprit, et Dieu nous donnera de fouler aux pieds l'aspic, le basilic, le lion et le dragon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.